Bonjour à tous, l'actualité des Alpes du Sud de ce vendredi 11 janvier, les titres. Jean-Michel Blanquer et Sébastien Lecornu étaient dans les Hautes-Alpes hier, deux ministres qui ont été interpellés plusieurs fois par les Gilets jaunes, mais ils entendent bien garder la même méthode pédagogique pour expliquer la politique du gouvernement. Pour le ministre de l'Éducation nationale, il s'agissait aussi de rassurer notamment les petites écoles rurales. L'association Écoles et Territoires se dit inquiète de la fermeture des petites écoles au profit des plus grandes structures. Elle a adressé un long courrier au ministre. De la prison avec sursis pour aide à l'entrée irrégulière d'un étranger en France. Après les 7 de Briançon, ils sont désormais 9. Pierre et Kevin comparaissaient hier devant le tribunal de Gap. Ils ont respectivement écopé de 3 et 4 mois de prison avec sursis. Vers la fusion des hôpitaux Bannon-Manosque-Fort-Calquier, un projet serait discuté dans les bureaux selon la CGT. Le syndicat y voit une menace sur la proximité sanitaire. Les rendez-vous sportifs sont nombreux. Ce week-end, Vars accueille la Coupe de France en diski. Dans le dévolu, plus de 150 personnes sont déjà inscrites pour la 3e édition du Dévolice Trail. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, et Sébastien Lecornu, ministre en charge des collectivités territoriales, étaient en visite dans les Hautes-Alpes hier. Deux ministres qui ont été interpellés plusieurs fois par des gilets jaunes, notamment à l'Argentière, l'ABC. Mais Sébastien Lecornu entend bien garder la même méthode pédagogique pour expliquer la politique du gouvernement. Écoutez-le.
Le gouvernement a choisi une première série de réponses importantes au mois de décembre autour du pouvoir d'achat. Enfin, c'est quand même des mesures qui représentent la somme de 10 milliards d'euros sur la transition écologique, sur celles et ceux qui travaillent, notamment avec la prime d'activité et le SMIC, sur la CSG pour les personnes âgées. Beaucoup de nos concitoyens nous ont dit « c'est pas suffisant, on se pose des questions ». Difficile sur notre quotidien pour l'avenir. C'est la réponse du grand débat qui permet aussi d'engager pratiquement une forme d'acte 2 du quinquennat d'Emmanuel Macron et qui permet d'accélérer la transformation du pays que nous avons engagé. Puis enfin, pardon, et c'était l'occasion ce matin pour moi de le rappeler, on arrête avec les contre-vérités, avec les mensonges, avec les insultes, avec les menaces et avec celles et ceux qui se comportent comme des casseurs, soit par la parole en disant des choses indignes, soit dans les faits, comme on a pu le voir malheureusement à Paris. Et donc la réponse du gouvernement, elle est complète, elle est totale. Et une fois de plus, notre boulot à nous ministres, c'est de parler à l'immensité de nos concitoyens, majoritairement, heureusement, qui sont des gens raisonnables et qui veulent faire avancer leur pays.
Dans l'après-midi à Valouise, ils ont présidé tous les deux une réunion du Conseil national de la montagne. Plusieurs thèmes ont été abordés, notamment celui de la carte scolaire. Jean-Michel Blanquer a voulu rassurer les petites écoles rurales en apportant certaines garanties.
Ce que je dis à tous les villages de France et à toutes les petites écoles, c'est que nous avons une priorité budgétaire qui est l'école primaire en France. C'est cette priorité budgétaire qui nous permet aujourd'hui de continuer à mettre des moyens, même quand il y a des baisses démographiques. L'année prochaine, il y a 40 000 enfants en moins en France. Pourtant, nous créons des postes à l'école primaire. Et nous allons le faire avec plusieurs objectifs. Mais dans les deux premiers, il y a contribuer à ce que l'école rurale soit sauvegardée. Sauvegarder, ça ne veut pas toujours dire figer, parce que nous devons d'abord regarder l'intérêt des enfants. Parfois, c'est pertinent pour l'intérêt des enfants de faire un regroupement, et parfois, les communes même le demandent. Donc on doit savoir le faire, on ne doit pas juste figer les situations. Puis dans d'autres cas, par exemple, quand il y a des très longues distances, il faut savoir trouver des formules originales. Parfois, par exemple, regrouper une école et un collège, ça arrive. Parfois, créer les éléments d'attractivité d'une école.
Des propos recueillis par Olivier Milleville, car la venue du ministre de l'Éducation nationale dans les Hautes-Alpes hier fut l'occasion de faire entendre les revendications des militants d'écoles et territoires. La fermeture des petites écoles au profit des plus grandes structures est dénoncée par ces militants. Lionel Paillardin, le président de l'association, a adressé une longue lettre au ministre. Il explique que les établissements ruraux présentent des avantages et sont même meilleurs sur plusieurs points.
Au niveau de l'aménagement du territoire, c'est quelque chose. Et puis au niveau de la pédagogie, les petites écoles ont de meilleurs résultats. Depuis 40 ans, toutes les études du ministère l'ont montré, donc au niveau pédagogique, c'est déjà une aberration. Au niveau de l'aménagement du territoire, on comprend bien, la première chose que les maires se voient entendre lorsque des couples arrivent chez eux, c'est « est-ce que vous avez une école ?» Et lorsqu'on leur dit que non, il y a un transport scolaire et il y a une demi-heure de bus, les gens ils sont pas sûrs de vouloir s'installer. Il y a aussi socialement le fait qu'il y a un meilleur lien social qui s'établit lorsqu'il y a un brassage au sein d'un village, au sein d'une commune, qui se fait beaucoup moins dans les grosses structures, où les gens restent plus enfermés, sont moins volontaires pour participer, pour agir. Enfin, tout ce qui est lié aux grosses structures entraîne de l'anonymat et c'est moins bon pour pour le lien social.
Lionel Paillardin qui déplore les directives du ministère de l'Éducation nationale de favoriser les grandes structures. Selon lui, cette décision risque d'endetter les communes pour longtemps. Le président d'École et Territoires qui estime qu'il n'y a pas de dialogue avec le ministère.
Ils sont en train de demander aux communes de mettre en place des très grandes structures qui vont leur permettre, qui vont faciliter la fermeture des écoles alentour. Et c'est contre ça qu'on se bat. C'est ça qui va coûter très cher aux communes. Ça fait 40 ans qu'on discute plus ou moins gentiment avec le ministère. On sait très bien qu'il nous entendra pas. Enfin, à part des révoltes ou alors devant les tribunaux administratifs, hein, c'est ce qu'on fait. Sinon, on n'est pas entendu, quoi.
Lionel Paillardin au micro d'Elena Saracani. Dans l'actualité également, les 7 de Briançon sont désormais 9. Après le procès des 3 plus 4 fin 2018, deux autres personnes se sont retrouvées devant le tribunal correctionnel de Gap ce jeudi. Elles étaient poursuivies pour aide à l'entrée irrégulière d'étrangers sur le territoire national. Deux affaires qui remontent au début de l'année 2018, Quentin Pérez de Tudela.
Oui, d'abord, la première, il y a tout juste un an, à la frontière franco-italienne, le 6 janvier, sur le front de neige à Montgenèvre. Pierre, 55 ans, vient en aide, ce sont ses mots à la barre, à des personnes originaires d'Afrique. Elles sont 4, selon le Briançonnais, alors que le procès-verbal de la police aux frontières n'en compte que 3. Quoi qu'il en soit, et toujours d'après ce même procès, le quinquagénaire très impliqué dans le milieu associatif aurait tenté de s'opposer à ce que le groupe d'étrangers soit embarqué par les policiers, ce que l'intéressé nie. Je les ai même aidés à porter l'une des jeunes femmes qui avait du mal à se tenir debout, assure-t-il. Le contrôle d'identité effectué sur place permet d'établir qu'elle est nigériane et qu'elle est la seule à posséder des papiers, et des papiers suisses. Au bout d'une trentaine de mètres, la Dacia de la PAF doit s'arrêter. C'est là que plusieurs migrants s'enfuient. Ne reste plus que la jeune femme faible qui sera ensuite conduite aux urgences après un passage au poste de frontière. Pour l'avocat de la défense, Maître Chaudon, rien ne permet de prouver que le groupe d'étrangers était en situation irrégulière.
Pour qu'on justifie qu'il ait facilité l'entrée de ces personnes, il faut au moins que ces personnes soient en séjour irrégulier. Et ça, on ne les a pas, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que ces personnes se sont enfuies. Mais on n'a aucune identité de ces gens. Il n'y a aucune vérification qui est faite et aucune. On n'a même pas une copie dans le dossier d'une pièce d'identité de qui que ce soit.
La deuxième affaire vise Kevin. Lui est aussi poursuivi pour refus d'obtempérer. Le 25 mars à 3h du matin, il est interpellé par la PAF à Montgenèvre alors qu'il revient d'Italie. Il transporte dans son Citroën Break 5 clandestins. Le trentenaire reste mutique et son conseil ne fait aucune déclaration. Finalement, à cette affaire, la salle d'audience remplie de soutien se sera montrée bien plus vindicative, échaudée lorsque la procureure dresse le portrait de Kevin, rappelant qu'il sera aussi jugé en avril prochain pour une affaire de vol. Cela n'a rien à voir, se sont indignés ses partisans, sortis de la salle par l'officier de police judiciaire.
Merci Quentin. Pierre et Kevin qui ont été reconnus coupables d'aide à l'entrée irrégulière d'un étranger en France. Pierre a écopé de 3 mois de prison avec sursis et Kevin de 4 mois avec sursis. Un homme placé en garde à vue après avoir tagué un radar. Les faits ont eu lieu ce mardi sur la commune de Malmoisson. C'est un témoin qui a prévenu le commissariat de Digne-les-Bains après avoir relevé la plaque d'immatriculation d'un véhicule à proximité du radar. Un individu a alors été interpellé, placé en garde à vue. Cet homme de 50 ans a reconnu les faits. Il se dit du mouvement des Gilets jaunes. Il sera présenté devant le procureur le 1er octobre 2019. Un homme de 18 ans placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Gap dans l'attente de son procès. Alors qu'il devait être jugé en comparution immédiate hier, son procès a été renvoyé au 31 janvier. La justice lui reproche un vol à l'arraché et des violences. Les faits se sont déroulés mercredi à Gap. Le jeune homme a tenté de dérober le sac à main d'une femme de 67 ans qui s'est blessée en tombant. Un témoin de la scène a lui aussi été blessé dans cette altercation. Il en est ressorti avec 21 jours d'ITT pour une fracture à la main alors qu'il s'était interposé entre la victime et son agresseur. Je vous en parlais dans les titres. La CGT tremble dans les Alpes de Haute-Provence et développe tous les symptômes d'un mouvement social à venir. Une mobilisation qui concernerait les hôpitaux dans le département face à un projet de restructuration. Pour l'instant, semble-t-il négocié dans des bureaux, il pourrait amener les hôpitaux de Bannon, Manosque et Forcalquier à fusionner. Cédric Vollet, coordinateur régional de la CGT Santé, en appelle aujourd'hui aux élus locaux pour s'opposer à ce qu'il voit comme une menace sur la proximité sanitaire.
Quand on entend les propos qui sont discutés en ce moment, donc ça parle de fermeture de lits orthopédiques à l'hôpital de Manosque, on entend des sous-projets de suppression d'emplois donc au bureau des entrées de l'hôpital de Manosque, des fermetures de lits SSR, donc c'est médicalisé à l'hôpital de Bannon. fermeture de la cuisine de l'hôpital de Fort-Calquier, fermeture de la maternité de l'hôpital de Digne. Il y a une réflexion qui est en cours, hein, qui va vraiment dans le sens d'une dégradation exceptionnelle de l'accès aux soins dans le 04. Et on a l'impression qu'on est dans un jeu vidéo et qu'il y a des personnes qui sont complètement dans un monde virtuel et qui jouent avec les hôpitaux, qui jouent avec nos vies, qui jouent avec nos emplois. Donc c'est vrai aujourd'hui qu'on manque de moyens, mais la fusion, si fusion doit se faire, elle apportera aucune réponse satisfaisante aujourd'hui à l'offre de soins dans le 04.
Des propos recueillis par Cyrielle Michard. On termine par le sport et le programme est chargé à Vars ce week-end. La station accueille deux rendez-vous, un Grand Prix international et une Coupe de France en ski. Deux événements portés par le Ski Club de Marseille-Saint-Antoine qui présente la compétition nationale pour la troisième année. Cinq nations vont s'affronter sur la piste de slalom, la Corée du Sud, l'Italie, la Pologne, l'Angleterre et la France. Écoutez, Marc Mérantier, c'est le responsable du Ski Club marseillais.
Cette course va revêtir une double casquette. C'est une course internationale en vue de la préparation de la Coupe du Monde qui va avoir lieu à Zagreb dans 15 jours. Et en même temps, ça restera aussi un support de la Coupe de France. Donc, il y aura un double classement à l'issue de ces épreuves. Un classement international avec des étrangers et l'équipe de France. Et parallèlement, un classement pour la Coupe de France.
Alors, quel est le programme ce week-end ?
Alors, ce week-end, nous avons deux géants le samedi et un spécial le dimanche.
Avec notamment, bien sûr, la présence d'Arthur Baucher. Ça, vous l'avez regardé d'une certaine manière, hein, je suppose, Marc.
Oui, bien entendu. Hein, donc, il y aura la présence de médaillés des derniers Jeux olympiques. Donc, c'est vrai que c'est une belle récompense pour nous.
Autre compétition, ce week-end, la deuxième étape de la Coupe d'Europe de snowboard cross. Ce sera ce samedi et ce dimanche à Puy-Saint-Vincent. Plus de 20 nations seront présentes. Les coureurs qui se disputeront des points sur le border cross de la station lors de cette épreuve portée par le club Écrin Snowboard depuis Saint-Vincent. Dans le dévolu, plus de 150 personnes sont déjà inscrites en ligne pour la troisième édition du trail blanc du dévolu, le Dévolice Trail, qui va se dérouler ce dimanche au départ de la station de Super Dévolu. Deux parcours sont proposés, celui du Blanchon et celui de la Foulée Blanche qui comptera pour le Challenge Trail 05. En solo, mais aussi en duo, les engagés vont courir sur les parcours balisés du domaine nordique de la station. Et pour Tristan Calamita, membre de l'association Dénivolui, toutes les conditions sont réunies pour avoir une belle course.
On a plus d'une quarantaine de bénévoles, sans qui ça serait impossible de réaliser ce qu'on va faire dimanche. Il y a du travail en amont, et puis le jour J, voilà, il y a quand même pas mal de missions. Et les forces en présence seront un petit peu les mêmes que l'an dernier, ceux qui jouent le challenge, je pense notamment à Thierry Fabre, qui est inusable et qui est au club de Gap. Isabelle Blanchard, il me semble que sera présente également. Mais c'est vrai que je dirais qu'on va privilégier la masse et on aime avoir beaucoup de... Voilà, voir du monde au dévolu. Tant pis s'il n'y a pas des coureurs de classe, on va dire, nationale. Mais les premiers coureurs qui seront là feront la course en tête. Ils vont tout donner pour essayer de remporter cette édition. Mais on est content d'avoir une bonne dynamique sur cette édition.
Et toutes les informations concernant le tracé et les inscriptions sont à retrouver sur alpe1.com. Enfin, pour terminer, les autres rendez-vous sportifs du week-end sont avec Cyrielle Michard.
En hockey sur glace, Ligue Magnus, ce sera un match à enjeu pour les Rapaces de Gap ce samedi soir. Ils accueilleront dans l'antre de l'Alpe Arena Chamonix les pionniers qui auront l'occasion de leur prendre la cinquième place en cas de succès, mais qui est instable et peine à apporter une victoire lors d'affrontements face à une équipe du top 8. Quant aux Rapaces, la rencontre sera compliquée pour les hommes de Luciano Basile qui n'ont plus enchaîné deux victoires de rang depuis le 30 novembre dernier. Les Alpins devront également se passer de leur attaquant letton Robert Siekimov, blessé au visage dimanche dernier. Division 1, c'est aussi une rencontre pour les Diables Rouges de Briançon, 9e, qui accueille Tours, 2e, demain à 20h30. En football, plusieurs affiches sur les pelouses des Alpes du Sud, mais pour le groupement féminin des Alpes, la rencontre est annulée. Une rencontre prévue en Régional 1 face à Saint-Henri. Mais les adversaires ont déclaré un forfait général. Cela donnera ainsi du répit pour les joueuses alpines qui doivent se préparer à une grosse affiche le 19 janvier prochain. Deuxième au classement, elles affronteront les leaders Avignon. Ce sera à Sisteron. En basket, reprise sur les parquets des Alpes du Sud. Honneur aux dames tout d'abord avec en régionale féminine senior D2, Gap Alpes du Sud qui affronte Carpentras à domicile ce dimanche à 15h. Un match relevé pour les locales, lanterne du championnat. qui reçoivent les secondes du classement. En pré-national masculine, Haute-Provence Basket 12e, accueille demain à 20h Venelle 4e. En régional masculine senior D2, deux affrontements ce samedi 20h. Tout d'abord, un déplacement pour les 5e, Gap Alpes du Sud, direction les 6e, Marseille. Quant à Digne-les-Bains, les joueurs accueillent Allo. En rugby, c'est la reprise en promotion honneur territoriale pour le RC Digne-les-Bains. Le club enregistre la recrue néo-zélandaise Adam Radcliffe et compte bien utiliser son talent contre le 4e du championnat Saint-Saturnin. C'est un déplacement ce dimanche à 15h pour les Basalpins. On termine par un mot de boxe. Il est revenu à la compétition dans l'objectif unique de reconquérir son Graal, le titre européen des poids coqs. Le boxeur manosquin Karim Guerfi, qui avait un moment hésité à raccrocher les gants, est bel et bien reparti sur les rings en quête de victoire. Après celle de novembre dernier à hier, où il affrontait le Nicaraguayen Christian Narvaez, il se relance dans la compétition du championnat européen dans la catégorie poids coq. Le Basalpin de 31 ans aux 27 succès, dont 8 avant la limite, ancien double roi de l'EBU, voudra bien évidemment reprendre sa couronne aux mains du gaucher angevin Georges Tino-Horry.
Merci Cyrielle.
Retrouvez et réagissez à l'actualité des Alpes du Sud à tout moment sur les réseaux sociaux.